Je passe la parole à Simon Deakin. Simon Deakin est professeur de droit à l'Université de Cambridge, spécialiste de droit du travail et de droit des sociétés, ainsi que de droit, théorie du droit et de droit européen. Et il est directeur du Center for Business Research de Cambridge, et c'est à Cambridge qu'il a fait ses études, y compris son doctorat en droit du travail. Et il a été professeur invité dans de nombreuses universités, donné des conférences tout autour du monde, notamment à Nantes, une période. Et il a publié des livres qui sont des livres de référence, tant en droit de la responsabilité civile, puisqu'il est l'auteur du Marquesinis and Deakin Tort Law, que du traité de droit du travail publié avec Gillian Morris chez Art Publishing. Nous avons un éditeur en commun, d'ailleurs, grâce à toi. Je te passe la parole, Simon.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup pour cette invitation et bon après-midi à tous. Je vais donner des observations assez brèves, je pense, sur cette question, bien sûr complexe, sur le lien entre la justice sociale et l'efficacité économique et bien sûr, le rôle de l'OIT. Je voudrais commencer par cette observation que l'OIT est le produit de la première mondialisation, c'est-à-dire la période autour de la fin du 19e siècle et du début du 20e, où il y avait des grandes circulations globales des personnes et des capitaux et une forte extension dans cette période-là de l'espace du commerce international. Et c'était le danger de la concurrence déloyale dans les standards du travail qui ont poussé les États européens initialement à adopter les premiers traités, les premières conventions de travail dans la décennie après 1890. Et cette première mondialisation, bien sûr, s'est soudainement arrêtée avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la création de l'OIT par le traité de Versailles a été une réaction contre la guerre, oui, mais aussi contre les effets extrêmes d'une libéralisation de la commerce dans la période avant la guerre. Donc, l'OIT, c'est une institution très spécifique dans ce sens. Il a commencé par concrétiser exactement l'idée d'une fusion entre justice sociale et efficience économique, parce qu'elle a concrétisé l'idée selon laquelle pour le commerce international soit durable, il fallait un accord entre les États sur les normes sociales et les normes du travail. Donc il y avait toujours un lien assez étroit entre les standards du travail et l'idée de la possibilité d'un commerce global et international. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'OIT est devenue l'instanciation de cette idée, la fusion entre les deux, la sociale justice et l'efficacité économique. Mais, bien sûr, à l'époque de la Deuxième mondialisation, qui a commencé avec la chute du mur de Berlin, cette idée de la fusion a été mise à l'épreuve. Et les normes internationales du travail ont été de plus en plus décrites comme un obstacle à la concurrence et au commerce. Nous pouvons, je pense, maintenant voir les effets de ce décalage. Peut-être c'est une erreur fondamentale, mais c'est un décalage. Les effets sont l'érosion du consensus sur le contenu fondamental des droits sociaux, et cette érosion a conduit à la montée des inégalités et de l'insécurité à un point tel que le régime commercial international est lui-même mis en péril, avec un retour au mur tarifaire et à l'autarcie toujours plus probable. Par exemple, le Brexit et les conflits de commerce entre les États-Unis et la Chine ce sont les conséquences, je pense, de l'érosion de ce consensus. Cette réaction a d'ailleurs commencé dans les pays censés connaître un niveau élevé de développement économique et de croissance, bien qu'il figure également parmi les États qui ont connu la plus forte baisse d'égalité depuis les années 1970, c'est exactement les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors que ces pays ont au moins depuis longtemps pris conscience des problèmes inhérents à la montée des inégalités, la solution proposée par l'OIT, qui est à savoir le renforcement des normes du travail transnational, cette solution n'a pas non plus été prise en compte. Elle a été rejetée en faveur du contrôle des migrations, une politique qui conduit, dans la Grande-Bretagne, je pense, et aussi aux États-Unis, qui conduit à une montée du racisme et de la xénophobie institutionnalisée. Donc, articuler une alternative à ce scénario sombre est urgent, mais pas simple. Même au plus fort de son influence dans la période qui a suivi la déclaration de Philadelphie, l'OIT s'est battue pour réconcilier ses fonctions internationales de normalisation et de surveillance des standards du travail avec une certaine réalité économique, et c'est la réalité du développement inégal des États. Et même en ce jour, on ne sait pas à quel point exactement l'émergence des États-providence et du mouvement des travailleurs actifs en Europe et en Amérique du Nord dans le XXe siècle a été réalisé aux dépens du développement économique et de la croissance dans les pays du Sud. C'est l'idée de la hypothèse formulée par Ralph Singer et Hans Prebisch dans les années 60. Les termes de l'échange, c'est-à-dire les prix relatifs des commodités internationales, favorisent systématiquement les pays plus développés. Je ne suis pas totalement convaincu que l'effet est en raison de l'État-providence et de la négociation collective dans les pays riches. L'État-providence en Europe peut-être n'est pas l'origine du développement inégal, mais c'est bien possible que l'inégalité entre les États, l'inégalité dans les termes d'échange, a facilité les stratégies d'égalisation à l'intérieur de l'État, l'État du pays nord, dans le XXe siècle. C'est un problème, on ne doit pas l'éviter. La question pour nous est maintenant, est-ce qu'il est possible promouvoir le développement durable dans les pays du Sud sans baisser les conditions de travail dans les pays industrialisés? Pour aborder cette question, je pense, nous devons réunir de discours discutés aujourd'hui qui sont restés en grande partie séparés. D'un part, le droit international du travail, qui consiste en une analyse juridique des normes contenues dans les textes juridiques et en leur comparaison avec la pratique sociale. Et d'autre part, l'économie du développement, qui étudie les sources de la croissance économique et les effets d'un développement inégal au sein des États et entre eux. Si on considère l'analyse juridique, je pense que l'analyse juridique doit aboutir à une compréhension plus nuancée des processus par lesquels les normes initialement conçues pour les États déjà industrialisés sont appliquées dans les autres pays. Alors que l'économie a besoin de mieux rendre compte de l'aspect développemental du droit du travail, c'est-à-dire de sa contribution propre à une croissance équilibrée et durable. Une nouvelle compréhension de la relation entre justice sociale et efficacité économique sera au cœur des deux projets, car elle les verrait comme des aspects à la fois conjoints et complémentaires du développement, plutôt que comme des opposés trop souvent perçus comme tels. Donc, si on considère, par exemple, les techniques qui sont à la disposition de l'OIT, c'est bien évident que la plus importante est la persuasion. L'OIT essaie de créer un consensus entre les États souverains sur la question du socle social du commerce. C'est évident aussi que l'OIT s'opère par un processus d'apprentissage. Les conventions et les recommandations de l'OIT cristallisent cette pratique des États et les diffusent plus généralement. C'est vrai qu'une convention de l'OIT a la force obligatoire pour les États qui l'ont ratifiée. Ce n'est pas exactement le droit souple. Le droit public international à la normativité accordée à lui par les États souverains, la reconnaissance collective de la force obligatoire ou opinio iuris. Mais, dans un certain sens, le droit international du travail est assez souple parce qu'un pays peut être membre de l'OIT sans accident aux toutes les conventions, ou même beaucoup entre eux. Par exemple, nous avons entendu cet après-midi les États-Unis. Un État peut ratifier une convention et peut changer son avis et la dénoncer. Et une convention du travail n'est pas effective sans une certaine quantité minimum de ratifications par les États. L'autre problème est de trouver donc un standard acceptable de la réglementation pour les pays au niveau différent de développement. C'est inévitablement un processus de compromis et d'apprentissage. Il n'est pas réaliste d'ignorer les différences entre les États, mais il faut aussi se rappeler que les conventions de l'OIT n'envisagent pas l'imposition des règles exactement uniformes sur les pays. Pour la plupart, les conventions de travail établissent des normes de forme génériques que les États devraient transposer dans leur propre loi. Il y avait toujours une certaine flexibilité dans ce processus de traduction. Et puis, il faut considérer aussi que l'application d'une règle ou standard de travail a un lien très complexe avec les coûts réels des entreprises dans les pays. Il faut distinguer entre les coûts bruts et les coûts nets. Les règles du travail pèsent des coûts sur les entreprises, c'est vrai, mais en pratique, il y a un rapport généralement assez positif entre les standards du travail et la productivité du travail et du capital dans l'entreprise. Se montre le rapport entre la productivité dans un pays et le niveau du salaire minimum. C'est intéressant de comparer les deux chartes parce que les différences relatives entre les États du salaire minimum, c'est très semblable aux différences de la productivité. C'est le cas, par exemple, que dans un pays assez développé, mais pas trop riche comme le Mexique, le salaire minimum est assez bas, mais c'est la même chose exactement pour la productivité. Bien sûr, pour les entreprises, ils voudraient une situation où ils peuvent accéder productivité assez en haut et le salaire assez en bas. C'est très important pour un État aligné la productivité en général avec les niveaux des salaires, et même assurer une certaine lien entre le salaire minimum et le salaire moyen. Il y a bien sûr les pays qui ont succédé à faire ça. En général, si on considère un pays développé, un pays avec les forts standards et un pays avec les assez hauts salaires minimums, c'est aussi un pays avec un assez haut niveau de la productivité. On peut examiner certains de ces pays, mais par exemple, bien sûr, c'est le Luxembourg qui a la productivité la plus en haut, grâce à la présence dans cet état-là de tous les avocats et banquiers, sans doute. Bien sûr. Mais il y a des autres exemples, et pour ceux qui voudraient discuter le Brexit, par exemple, la position du Royaume-Uni et de la France est très intéressante, n'est-ce pas, dans ces charts. Mais ce n'est pas tout. Mais je voudrais dire que l'idée d'un terrain de jeu égal entre les États n'est pas réalisable en réalité. Pour un État souverain, adopter une convention de l'OIT signale un engagement à un certain modèle de croissance et de développement. C'est un modèle dans laquelle la croissance de la productivité économique et l'enlèvement des standards de vie dans le pays se renforcent. Il faut concevoir le processus d'élèvement des standards de travail comme un mouvement dynamique, pas une position fixée. Nous savons, grâce aux recherches dans le domaine des institutions de l'économie, qu'il y a une corrélation assez forte entre les conditions de vie et de travail dans un pays, les indices économiques comme la productivité et le produit brut national, et aussi les indices institutionnels, par exemple, ceux qui supposent mesurer la règle de droit. Et finalement, maintenant, comme nous avons discuté aujourd'hui, il y a un lien entre la productivité et les niveaux de protection envisagés dans les normes du droit du travail. Ces recherches ne suggèrent pas que l'adoption par un État d'une certaine réglementation de travail se traduit automatiquement vers l'amélioration des conditions de travail ou de vie, ni automatiquement à la croissance économique. Mais la suggestion est plutôt que les moyens et mécanismes existent de trouver les complémentarités entre la protection sociale et le développement durable. Et cette notion de la durabilité se réfère aussi peut-être à la notion des impératifs écologiques. Le droit de travail international, donc, est un mécanisme ou technique qui peut jouer ce rôle pour stimuler l'apprentissage mutuel entre les États, et c'est ce processus d'apprentissage qui est au cœur, je suggère, de sa mission. On peut observer ces tensions dans le débat aujourd'hui sur comment un pays s'échapperait du piège du revenu moyen, le middle income trap. Il n'est tout à fait certain que le chemin idéal est celui de la déréglementation du marché du travail. On observe dans plusieurs pays, par exemple dans l'Asie orientale, un processus de construction des institutions du marché du travail, les assurances sociales, les salaires minimums, les tribunaux de travail. Dans la Chine, par exemple, et pas seulement là, le Vietnam est un autre exemple, l'industrialisation et la marchandisation, dans le contexte d'une économie dite maintenant marchande, a ouvert un espace pour un débat sur la réglementation du marché du travail. Et les objectifs des réformes incluent l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs et aussi la réduction ou au moins la formalisation des conflits de travail. Ce mouvement, dans les anciens pays dits socialistes, n'a pas encore produit une acceptation du principe de la libre association des travailleurs. Ce n'est pas le cas en Chine. Les syndicats restent contrôlés assez strictement par l'État. Et donc, ce modèle asien ne suit pas exactement l'évolution de la négociation collective libre en Europe et en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Mais il faut souligner que le modèle asien ne suit pas le programme de déréglementation du marché du travail recommandé par la Banque mondiale sous le nom du consensus de Washington. La comparaison avec l'Inde est instructive. L'Inde a suivi une politique de la libéralisation de l'économie depuis les années 90. Le droit du travail indien, essentiellement hérité des années 40, reste très protectif en principe, mais est faiblement implémenté en pratique et risque la perte de sa légitimité. Et grâce à la possibilité de la dérogation du droit national au niveau des États locaux en Inde, on observe la fragmentation du système et la concurrence déloyale, la concurrence vers le bas, menée par l'État de Gujarat, qui est l'État de l'actuel premier ministre du pays, M. Modi. Donc, l'Inde et la Chine, pour les raisons diverses, suivent les routes maintenant très différentes. C'est peut-être trop tôt prédire toutes les conséquences de ces évolutions, mais évidemment, les pays ont un choix. Pour conclure, je dirais que l'OIT ne peut pas s'imposer sur les États en développement un certain modèle. Ces États retiennent une assez grande flexibilité dans la politique du travail. Mais c'est aussi évident que l'OIT a une influence et aussi une certaine légitimité par comparaison avec des autres institutions de l'ordre international comme la Banque mondiale. Il y a donc l'espoir, peut-être la bonne nouvelle. Nous avons besoin néanmoins d'une conception réaliste, pas nécessairement modeste, mais d'une conception réaliste du potentiel de l'OIT. Merci.